France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité.
Margot Delpierre.
Bonjour à tous. 55 000 fidèles réunis sur la place Saint-Pierre de Rome ont suivi hier le traditionnel message Urbi et Orbi du pape à la ville et au monde. François a appelé la communauté internationale à garantir la sécurité au Moyen-Orient. Il a eu quelques mots pour le peuple syrien qui, dit-il, ne voit pas encore la fin des hostilités qui ont déchiré le pays. Pour les Libanais aussi et les Vénézuéliens, le pape qui a fait du soutien à des migrants l'une des priorités de son pontificat a aussi critiqué les murs d'indifférence qui se dressent sur leur chemin. 200 migrants ont été secourus hier par les gardes-côtes espagnols, des hommes, des femmes, des enfants qui avaient pris la mer à bord d'embarcations de fortune. Cette année, plus de 1200 migrants sont morts en tentant de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Nous y reviendrons plus longuement dans le journal de 6h30. Une deuxième attaque a été perpétrée dans le nord du Burkina Faso dans la nuit de mardi à mercredi, ont annoncé hier soir les autorités. Une dizaine de soldats burkinabés ont été tués. Le Burkina a décrété un deuil national de 2 jours après l'attaque d'Arbinda où 35 civils et 7 militaires sont morts. 80 terroristes avaient été neutralisés. Au moins 16 personnes sont mortes hier aux Philippines à cause du passage d'un typhon, d'après les autorités locales. Il s'agit d'un premier bilan communiqué cette nuit. Le casse-tête continue pour les voyageurs français dont les trajets sont perturbés par la grève contre la réforme des retraites. Aujourd'hui, un TGV sur 2 circule selon la SNCF, un Transilien sur 5 et 4 TER sur 10. 5 lignes de métro parisiens sont fermées, ajoute la RATP. La SNCF rappelle que tous les trains ouverts à la réservation jusqu'au 29 décembre inclus sont garantis de circuler. Les grévistes qui espèrent tenir jusqu'en janvier, la concertation doit reprendre le mardi 7 avec le gouvernement avant la présentation du projet de loi en Conseil des ministres le 22 janvier.
4 enfants, un mari, un lapin, un boulot, travailleuse et mère de famille au bord de la crise de nerfs. La vie trépidante de Brigitte Tornade, en podcast original. Noël approche et c'est l'effervescence chez les Tornades.
Quand même, c'est du chantage, ça.
Comment ça, du chantage?
Bah, de dire que tu vas téléphoner au Père Noël si Octave mange pas, c'est du chantage.
Guirlandes, sapins et dindes au marron, en tristérie festive, découvert à la banque, prise de bec et angoisse existentielle, tout y est. La vie trépidante de Brigitte Tornade, en podcast original sur franceculture.fr et toutes les plateformes dédiées. France Culture présente la revue Tintin, c'est l'aventure, en vente actuellement en librairie et chez les marchands de journaux. Dans ce nouveau numéro, découvrez un grand reportage sur la montagne chère à Hergé et sur la spiritualité. Un entretien avec l'explorateur Jean-Louis Etienne et un dépli BD inédit de l'auteur Jacques Ferrandez. Partez à l'aventure avec Tintin et Géo, un partenariat France Culture.
Tout de suite, le réveil culturel par Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le réveil culturel. Mon invité ce matin est Laurence Romance, journaliste, auteur, traductrice. C'est ainsi qu'elle signe ses mails. Le mot « rock » n'est pas mentionné, mais tout ce qu'elle a écrit, tout ce qu'elle a traduit, a forcément quelque chose à voir avec le rock. Laurence Romance, c'est d'abord, pour ceux qui se souviennent des années 80 et 90, au fil des pages de Libération, des Inrecuptibles, de Best, une signature, une vie passée à écrire des articles sur le rock, sur les groupes de métal, sur ce qu'on appelait à l'époque la New Wave et tous les bruits émergents des scènes électro-alternatives. Rock critique, c'était son job. Ici aujourd'hui, on peut trouver l'unique autobiographie de Charles Manson, enfin traduite en français aux éditions Séguier. C'est grâce à elle, et pas seulement parce qu'elle en est sa traductrice.
Le réveil culturel. Jeudi, musique.
No fun, no matter.
On va dire que tout a commencé par cette chanson. On va dire ça, Laurence Romance, bonjour.
Bonjour.
Ravi de vous avoir.
Et ravi également d'être là.
Rock critique, ça existe toujours d'ailleurs comme job?
Ça existe toujours, oui.
Mais alors pourquoi vous n'êtes plus rock critique? Pourquoi vous avez pris votre
retraite?
Ah, parce
que ça a eu payé, mais ça ne paye. Oui, bah, moi je suis devenue freelance environ vers 2007, il y a un peu plus de 10 ans et tout. Et depuis, j'écris encore, hein, mais bon, l'article occasionnel, quand j'ai vraiment un gros truc et tout, pour les En Rock ou autre, enfin je propose. En général, c'est des cover stories. Quand même le minimum, vu mon bagage. La dernière fois, une des dernières fois, c'était un truc sur Kurt Cobain où j'ai reconstitué son dernier mois à Paris, quasi jour par jour et tout, parce que il se trouve que je connaissais son dealer, qui était un ami à moi. Et tous les autres ont fait de la sociologie un petit peu à deux balles sur le grunge. Et moi, j'avais un truc avec vraiment de l'info. C'est le genre de papier que je vends au Times, au Guardian, enfin à l'étranger. Mais oui, bien sûr, il y a encore de la critique rock, mais il faut plus espérer en vivre, je pense. J'aimerais pas commencer maintenant.
Alors, Les Stooges avec Iggy Pop dans No Fun, c'est votre premier disque. C'est ça qui vous a donné envie, un, d'écrire, deux, de devenir chanteuse, trois, de vivre une vie de rock. Laurence Romance, racontez-nous comment ça a commencé. Vous, la petite fille venue du Pas-de-Calais.
Du fin fond du Pas-de-Calais, ouais. Près des marais au Domarois. Je blague pas, il y a vraiment des marais. Hein.
Ah oui,
c'est le swamp, ouais, c'est le bayou, ouais. Il y a vraiment des marais, oui.
Et il y avait des groupes de rock qui venaient jusqu'à chez vous?
Mais non, justement. Non seulement il n'y avait pas de groupe de rock, mais il n'y avait pas Bess, il n'y avait pas Rock'n'Folk, il n'y avait certainement pas le New Musical Express, enfin, il n'y avait rien du tout. Mais alors, par contre, j'ai un grand frère qui a plus de 10 ans que moi et qui avait dans sa jeunesse un magnétophone, un de ces vieux magnétophones à bande, là, où il l'enregistrait. Et il avait un copain qui avait des disques, évidemment. Donc, j'ai grandi en écoutant, mais en écoutant seulement, je précise, les Who, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, enfin, tout ce qu'on veut, etc. et tout. Ça se gravait, mine de rien, dans mon ADN, mais je savais pas du tout à quoi ressemblaient ces gens. Enfin, ni d'où ça venait, c'était juste la bande-son de ma vie, quoi. Et quand j'ai eu 11 ans, mon frère a... Alors, grand changement, mon frère... fait l'acquisition d'un électrophone, un de ces vieux modèles horribles, orange, marron et vert, avec le couvercle qui sert de haut-parleur. Mmh,
qu'on appelait les tourne-disques, comme disait ma mère.
Des tourne-disques, voilà. Il a un tourne-disque, et du coup, il a des disques. Et il a pas beaucoup de disques. Il a 3-4 disques, quoi, 5 grand maximum. Et dedans, il y a le premier Stooges. Je sais que ça paraît, on va dire, elle fait son hagiographie, là, la romance. Elle raconte des conneries et tout. Mais c'est vrai, c'est la vérité. Et donc, moi, évidemment, je tombe en arrêt devant la pochette. Pour la première fois, je voyais à quoi ressemblaient les rockers, entre guillemets. Et donc, du coup, après, j'étais foutue pour le reste, un petit peu, oui, c'est vrai.
Ma vie sera rock, ce que vous êtes dit. Et comment êtes-vous arrivé à la critique rock? D'ailleurs, c'est quoi pour vous, c'est quoi la définition de votre métier de rock critique? On a parlé de rock critique.
Il faut être passionné par ce qu'on fait, comme les musiciens eux-mêmes. Il faut être passionné par ce qu'on fait. Oui, non, mais évidemment, un minimum de culture est nécessaire, mais on l'acquiert. On l'acquiert même à rebours. Moi, par exemple, je connaissais rien du tout au rock des années 50, puisque c'était pas ma génération, j'étais pas née, mais j'ai découvert, grâce à des groupes comme les Cramps, par exemple, qui faisaient beaucoup de reprises de groupes des années 50, comme dans plein d'autres métiers, comme dans tous les métiers, peut-être, le principal, c'est vraiment, vraiment la passion, quoi. Moi, j'avais une petite, j'adorais, écrire, je faisais des dissertations, enfin des rédactions, pas des dissertations, dès le CM2 et tout, qui n'était pas obligatoire, hein, c'était genre sujet libre, si vous voulez et tout, et j'en faisais quand même. Donc on peut dire que j'aimais bien écrire. Après j'ai eu accès à Best et Rock'n'Folk justement, et donc je découpais les chroniques des deux, trois albums, des quelques albums que j'avais, les premiers, à moi, hein, pas à mon frère. Et puis j'écrivais la mienne à côté, que je collais, à côté de celle de Best et de Rock'n'Folk. Donc je pense qu'on peut
pour
parler...
Pour dire exactement de... le contraire, j'espère. Vous aviez déjà cet esprit rock, cet esprit rebelle, Laurence Romance.
Ah bah oui, 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 malheureusement pour mes parents, oui. j'ai bien embêté le monde, oui.
Mais est-ce qu'il y avait des références pour vous dans la critique musicale et notamment dans la critique du rock? Est-ce que Lester Banks, par exemple, existait déjà dans votre esprit? Vous le lisiez, vous?
Mais non, je connaissais pas du tout, ni mon compagnon, ni Ken d'ailleurs, puisque le New Musical Express dans le Pas-de-Calais, faut oublier, quoi. Non, les premières références, ça a été justement des gens comme Philippe Garnier, qui parlait des Cramps et qui était à fond là-dessus, des gens comme Yves Adrien ou Patrick Hudlin qui ont lancé le punk. Donc là j'étais moi toujours teenager dans le Pas-de-Calais, crevant d'envie d'aller ailleurs parce que coincé là où il se passait rien au lieu d'être à Paris et d'aller voir je ne sais quoi de punk au Chalet du Lac ou ailleurs. Donc j'étais au fin fond de mon Pas-de-Calais, je faisais du stop pour aller à des concerts d'Aerosmith. La police me ramenait chez moi au bout de 3 fois parce que j'étais sur l'autoroute, tout ça machin. De toute façon j'avais pas un rond, donc même si on m'avait pris en stop je serais resté à la porte.
Et Yves Adrien et Patrick Hudlin vont vous connecter à la scène rock, à ce qui se passait?
C'était plus les sujets qu'ils abordaient que les signatures. Avant Best et Rock'n'Folk, j'avais eu accès à un journal qui s'appelait Extra, qui a pas duré très très longtemps, qui était très orienté glam rock, dans le, ce que je dirais, le pire, Elton John et compagnie et tout, le pire, le plus...
populaire, disons. Allez.
Ouais, mainstream un petit peu terne, et dans le mieux, Alice Cooper. Et là, j'étais devenue... C'est vers mes 13-14 ans, j'étais devenue totalement fan d'Alice Cooper. Et donc, du coup, extra. Et puis évidemment, Suzy Quatro, comme en plus c'était une fille, mon héroïne.
Le plaisir, il venait de l'écriture ou d'aller à la rencontre des musiciens, d'aller assister à des concerts, d'écouter des disques, Laurence Romance?
Au départ, non, je voulais voir des concerts. Au départ, je savais pas. J'étais là en train d'écouter mes disques, et puis en me disant, je suis pas là où ça se passe. Il faut que je sois là où ça se passe, d'où les essais en stop pour aller voir Aerosmith aux abattoirs de Pantin, infructueux, hélas. Et donc, non, au départ, il n'y avait aucune idée précise, c'est juste... J'ai été aussi, attention, ouais, je pense que je dois avoir été la seule abonnée du Pas-de-Calais à un magazine éphémère qui s'appelait Rock News, qui était fait par Michel Esteban et Lizzie Mercier-Desclous. Michel Esteban est devenu plus tard le boss de The Records. Et Lizzie Mercier-Desclous a fait une très jolie carrière. Elle est aujourd'hui décédée, je crois.
Elle a regretté, oui, bien
ouais,
sûr.
Moi, elle a regretté Lizzie Mercier-Desclous. Et donc, eux, là, c'est un petit peu plus tard, c'était vers 76, ils étaient à fond dans la scène, mais new-yorkaise. Il n'y avait pas encore eu la déflagration du punk anglais. Donc, ce n'était que les Ramones, Blondie, Lou Reed, Patti Smith, Television, Rich Harrell, etc. et tout. Et moi, je dévorais ça. Et j'étais toujours là, dans le Pas-de-Calais, en train de me dire, mais il faut que j'y sois. Donc, la première ville la plus proche, c'était Lille. Je suis allée à Lille. De Lille, c'est absolument génial parce qu'on n'est pas très loin de la Belgique. Et la possibilité de voir plein de concerts, parce que les tournées passaient souvent en Belgique avant d'aller à Paris. Donc j'ai pu voir les Runaways, Patti Smith, ainsi de suite. J'ai même vu AC/DC en première partie de quelqu'un d'autre, avec Bon Scott, le chanteur légendaire d'AC/DC. Enfin bref, voilà, non, il n'y avait pas d'intention de « je vais faire ça, je vais écrire » ou « je voulais juste être dedans, d'une façon ou d'une autre ».
Courtney Love, la sulfureuse veuve de Kurt Cobain, traîne toujours sa réputation de harpie rock infréquentable. Mais ça ne devrait plus durer longtemps à présent qu'elle crève l'écran dans le nouveau film de Milos Forman, People vs. Larry Flynt. N'allez pas vous imaginer pour autant que Courtney a abandonné le rock. Le nouvel album de Hole est annoncé pour ce printemps. Il devrait normalement être produit par Billy Corgan des Smashing Pumpkins. Mais laissons plutôt l'intéressée vous expliquer tout ça elle-même. Non sans ajouter que nous sommes évidemment ravis d'avoir célébré nos retrouvailles avec l'incontournable Courtney, qu'on n'avait pas vu depuis un bail à Rock Express. D'autant que vous allez voir tout de suite, elle est toujours aussi bavarde.
Voilà, c'était Laurence Romance à la télé en 1997 sur M6, puisque vous aviez une émission qui passait très tard la nuit, Rock Express. Mais avant d'arriver à la télé, Laurence Romance, vous étiez déjà devenue une signature dans les grands magazines musicaux, puisqu'il y avait, c'était encore l'âge d'or de la presse musicale en
France. C'était encore l'âge d'or de la presse musicale
Et surtout, vous
étiez... Et il y avait encore une industrie du disque, voilà, également, avec des voyages de presse, ouais, où les journalistes pouvaient aller voir tel ou tel concert et interviewer tel ou tel artiste et tout, ce qui n'existe absolument plus aujourd'hui.
On vient de vous entendre parler de Courtney Love, c'est-à-dire vous mélangez un peu le côté people, qui elle est...
Ça c'est Courtney Love qui s'est elle-même, qui a elle-même maintenant, elle est plus connue pour assister au défilé de Christian Dior que pour sa musique, ce que je regrette profondément parce qu'elle aurait dû continuer à faire de la musique pour moi. Et non pas se complaire à ces conneries de mode. Mais à Libé, ça s'est passé tout naturellement. C'est qu'il n'y avait personne, donc j'ai pris la place.
C'est quoi un écrit rock pour vous, Laurence Romance? C'est de raconter votre rencontre avec les groupes?
Difficile à dire. Pour moi, c'est du journalisme, ni plus ni moins. C'est Philippe Garnier, je crois, qui a dit « Tout journaliste devrait trouver un angle, y compris sur la route 66 ». Et donc, j'ai gardé cette devise en tête. Non, mais bon, j'ai pas écrit que sur le rock, j'ai écrit aussi sur des sujets de société.
On y arrive.
Oui. Non, mais dans tous les cas, il n'y a pas 15 000 approches. C'est toujours... Soit vous avez une interview... Il y a une interview avec questions-réponses, qui est le plus classique, mais bon, pas forcément très inventif. Soit vous incorporez les propos dans un article. Il faut qu'il y ait votre personnalité dedans. Sinon, j'ai une anecdote, il n'y a pas longtemps sur les réseaux sociaux, il y a un type qui je sais plus, met un post et tout, en m'attaquant un peu sur un bouquin qui va sortir au sujet des rock critiques, justement, en disant, ça me rappelle...
Gonzaille édition, on l'attend avec impatience. Et d'ailleurs, il sort la semaine prochaine.
Profession rock critique, qui sort la semaine prochaine. Oui, voilà, oui. Et donc, les mecs de Gonzaille mettent un truc sur les réseaux sociaux. Il y a un type qui tient un blog qui vient dire, très bien, merci, ça me rappelle pourquoi je lis plus la presse musicale. Et donc, du coup, moi, par curiosité, je vais voir son blog. Et son blog, c'était que des choses genre tel groupe formé en telle année à Los Angeles a sorti. C'était des fiches Wikipédia. Et donc, du coup, le type, il m'a empêché de lui répondre parce que je sais pas ce qu'il a fait comme manip, j'y connais rien.
Vous pouvez lui répondre là. Pour vous, la définition de...
Oui, non, mais il mérite même pas qu'on lui réponde. Mais, donc du coup, là, le type me disait d'un côté, merci de m'apporter la preuve, merci de m'apporter une raison supplémentaire pour ne plus lire la presse musicale, et je vais voir son blog, et c'était chiant comme la pluie, franchement. C'était une fiche Wikipédia. Alors, il faut quand même qu'il y ait de la personnalité. Il faut quand même qu'il y ait votre personnalité. Je me souviens quand j'étais seulement lectrice, et même après d'ailleurs, des gens pouvaient, des signatures pouvaient m'énerver, j'étais pas d'accord avec eux, ou alors j'étais super d'accord, etc. Et ça me touchait profondément et tout. Mais il faut qu'il y ait quelque chose qui passe. Mais s'il y a rien qui, si c'est machin, s'est formé en telle année, il a fait tant d'albums et tout, on s'en fiche. Maintenant, c'est dans Wikipédia.
Laurence Romance, vous avez épousé Nick Quint, qui lui-même est un grand rock critique, mais anglais, british.
Et pas seulement, ouais. Ouais. Mmh. Maintenant un auteur plutôt. Oui.
Ben vous aussi d'ailleurs, vous êtes passé aussi au livre.
Non, pour l'instant, j'ai pas encore écrit mon deux livres. On m'encourage vachement, et donc je suis super contente en ce moment parce que. Je suis pas la fille avec le plus de motivation au monde. À chaque fois, je me dis tout le monde s'en fout. Je reprends la citation de Céline, la postérité c'est pour les asticots, etc. Et donc, en fait, je suis une grosse flemmasse aussi. Mais là, tout le monde me dit, mais bon, fais ton bouquin et tout. Donc finalement, ça... encouragé par mes potes, je vais sans doute m'y mettre. Quant à Nick, oui, bah, évidemment, oui, c'est mon homme depuis une trentaine d'années. C'était le réalisateur de Rock Express. Ça, c'est très, très important à dire parce que on avait une seule caméra. Les gens pensaient qu'on en avait trois. Grâce à son excellent travail de montage, il faisait de la dentelle en studio. Et puis aussi, on avait une équipe de fous, de passionnés. C'est pour ça que le mot principal, c'est, ça devrait être passion.
Comment écrire sur le rock?
Il n'y a pas de méthode. Chacun trouve la sienne, à mon avis. Je ne sais pas, moi j'ai suivi les règles.
Il n'y a pas de méthode, mais il y a quelques repères, non, pour vous?
Bien sûr, oui. Par exemple, à Libé, il y avait la ligne, à l'époque, à l'âge d'or de ouais. Libération, où le chef du service musique, c'était Bayon, Bruno Bayon. La ligne était celle de Bayon, qu'il avait lui-même hérité de Lester Bangs, et qui était... Tout artiste est coupable avant de... Non, pas de copinage. Les deux ennemis de la critique rock sont la promotion et l'hermétisme. Bon, l'hermétisme, il pouvait parler parce que lui, il faisait des articles un petit peu imbitables oui. De temps en temps. Mais bon, mais donc voilà, vouvoiement en interview, même si on a tutoyé, évidemment, ça vaut que pour les Français, puisque en anglais, c'est le « you ». Quelques trucs de base... Mais de pas, c'est pas avec tout le respect et l'affection que j'ai pour lui, parce que je le connais, Laurent Boyer, l'ami des stars, Fréquence Star, c'est on n'est pas potes. C'est un monde différent. Quand j'ai commencé à être trop copine avec Étienne Dao, j'ai passé la main, j'ai dit à Bruno Bayon, mon chef, je dis écoute, il faut que tu demandes à quelqu'un d'autre d'écrire sur lui. Moi, je peux plus, puisque on est trop potes, donc soit je serais hypocrite en disant que c'est bien si jamais j'ai des réserves sur un de ses albums, ou soit je me fâcherais, donc autant passer la main et voilà quoi.
Michel donc, Polnareff, vous l'avez rencontré et pour lui, il l'a raconté, il s'est confié, ça a été un moment terrible dans sa vie. Comment vous avez pu le troubler à ce point, Laurent Romance? Qu'est-ce que vous avez sorti?
Il m'a troublé beaucoup aussi. Hein.
Ouais.
Il m'a troublé beaucoup aussi. Non, mais c'était très rigolo. C'était à l'époque de son comeback au début des années 90. Il était installé au Royal Monceau. Il avait installé un studio au Royal Monceau. Sa maison de disques, Sony CBS, à l'époque, avait très peur que ça ne marche pas. Et moi, je devais faire un papier pour l'édition française, la toute première édition française de Rolling Stone, dont le rédacteur en chef était le regretté Lionel Rodcage, le fils de Régine, qui était un mec génial, qui m'a donné ma chance pour écrire sur d'autres trucs que le rock, des sujets de société, etc. et tout. Bref. Et donc, et où aussi on pouvait faire des articles de fond. 30 feuillets et tout, ça, Polnareff, c'est ça, quoi. Et donc, il y avait eu une espèce de teasing ridicule où ça avait duré 3 semaines, où j'essayais d'avoir Polnareff, tout comme l'attaché de presse de la maison de disques, personne n'arrivait à le joindre et tout, et tout le monde me disait, mais tu n'y arriverais pas par les voies normales, tu dois aller à l'hôtel Royal Monceau, sinon tu le verras jamais, quoi. Donc je suis allée à l'hôtel Royal Monceau, en mode Philippe Marlowe. Je l'ai reconnu au bout de 2 jours. Pas le premier jour, mais au bout de 2 jours. Merde, c'est le mec, c'est le nain en jogging, là, avec des lunettes et tout. Il était barbu, ouais. Des lunettes qui lui mangent la figure. Oui, c'était lui. Et ensuite, bon, je passe les détails. Mais ça s'est fini par une non-interview, parce qu'il savait que j'avais, entre-temps, téléphoné à plein de gens. Autour, il dit vous n'aurez rien de moi, vous avez parlé, donc vous avez balancé, donc je ne dirai rien, tout, etc. Enfin, c'était très comique rétrospectivement, mais sur le coup, j'étais débutante, moi, je suis rentrée chez moi en pleurs un peu, hein, parce que quand même on s'est.
Et vous avez publié l'article, bien sûr.
Eh bien, Lionel a été absolument génial sur le coup, puisqu'il m'a laissé me calmer, parce que je l'ai appelé le lendemain en lui disant il n'y a pas d'article. J'ai pas fait d'interview. L'autre, il a arrêté mon magnétophone en disant vous allez écrire avec une plume et faire des déliés, tout. Si je lui posais une question sur son contrat, la nature de son contrat, il me répondait est-ce que je vous ai demandé la couleur de votre culotte? Enfin bon, ce genre de choses. Et tout ça, c'était à 2h du matin, hein, alors qu'on était arrivé avec l'attaché de presse à 8h du soir. Donc le lendemain, j'appelle en disant il n'y a pas d'article. Et donc il m'a laissé me calmer pendant 2-3 jours et il m'a rappelé, Lionel, en me disant bah, écoute, tu racontes comment il n'y a pas d'article. Tu racontes juste ce que tu m'as dit, sans haine ni passion. Et donc, ça fera un bon article. Et ça fait effectivement un super bon article.
Bah oui, puisqu'il en parle encore aujourd'hui, Michel Polnareff.
Et Michel, oui, Michel. Michel était très... Alors, la maison de disques avait très peur à la sortie de l'article. Et Michel, qui est dingue, Polna était à la stupéfaction de la maison de disques. Il était content parce que je l'avais comparé à Michael Jackson en disant qu'il était à... quasi aussi dingue, voire plus dingue. Donc, il était content. Mais maintenant, dans la biographie de mon confrère Philippe Manœuvre, je suis, à ce qu'il dit, son pire souvenir journalistique. Donc, au moins, j'ai laissé une marque.
Vous écrivez sur les rockers, mais vous écrivez aussi sur d'autres personnages qui sont, d'une manière ou d'une autre, marqués par la culture rock. Par exemple, ce grand criminel qu'est Charles Manson. C'est le dernier livre traduit par vous, Laurence Romance, Charles Manson par lui-même. L'autobiographie autorisée, en fait, ce sont des propos recueillis par un ancien ami de prison, Newell Emmons. Ça sort chez Séguier et on apprend que, bah oui, Charles Manson est aussi un produit du rock.
Absolument, absolument. Charles Manson voulait être une star du rock. Il y a beaucoup de théories visant à expliquer le pourquoi du comment des abominables meurtres de Sharon Tate et ses amis, et le lendemain, la Bianca, etc., etc. Mais celle qui reste la plus répandue et, à mon humble avis, la plus crédible, c'est que le mec a pété les plombs à force d'être rejeté. C'est la même théorie que Neil Young, hein, que la mienne. À force d'être rejeté dans ses efforts pour devenir une rockstar. Charles Manson vient des années 50, et donc ça ressemblait pas mal à Frankie Lane, qui est quelqu'un dont ça dira rien à personne, ou pas à grand monde. Mais Neil Young lui-même, par exemple, avait fait le siège de sa maison de disque à lui, pour essayer de faire signer Charles Manson. Mais ce qui s'était passé, c'est que Charles Manson était absolument ingérable en studio. Ce que Neil Young a dit, il est très très bon, c'est un rappeur avant la lettre, il a un flow, il improvise, il est absolument génial, mais on peut pas l'enregistrer en studio. Les ingénieurs du son des Beach Boys ont essayé, puis il avait des relations avec le batteur des Beach Boys, en particulier Dennis Wilson. Et bon, bah déjà, il se ramenait avec toute sa famille, 25 personnes, donc ça faisait un peu désordre. Mais ensuite et surtout, c'est que il voulait pas entendre le moindre conseil sur la prise de voix, etc. quoi. Mais oui, bien sûr, Charles Manson, il est incroyablement lié à la musique. Alors une autre théorie, c'est Helter Skelter, la chanson des Beatles, l'album blanc l'aurait transfiguré, il se serait reconnu dans l'album blanc, qui lui envoyait des messages à lui, Charles Manson, pour commettre, et en particulier la chanson Helter Skelter.
Le réveil culturel de Tofik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr.
Et voilà, on n'aura pas le temps de parler de Nirvana, de vos rencontres avec Nirvana, Laurence Romance, de vos aventures avec Lou Reed. mais effectivement, ce livre, Charles Manson par lui-même, vous êtes battu d'ailleurs pour qu'il soit publié en France.
C'est un super bouquin.
Et c'est un super bouquin, et que vous avez traduit. C'est aux éditions Séguier. On attend aussi, bien sûr, le livre Rock Critique chez Gonzaille Édition, qui sort la semaine prochaine. Merci beaucoup, Laurence Romance, d'être passée ce matin.
Merci, Toufik. Et vraiment, Charles Manson, c'est un super bouquin. Sinon, j'aurais pas traduit et je me serais pas battue autant pour le traduire et pour trouver un éditeur. C'est un super bouquin qui se lit d'une traite très, très facilement et qui est complètement rock.
France Culture, l'esprit d'ouverture. Chaque samedi sur France Culture, entrons dans une œuvre, une vie, Christine Bernard.
On l'appelait la reine de la soul. C'est l'une des plus grandes voix américaines de l'histoire. Tour à tour chanteuse de gospel, de jazz, de funk, de R&B, avec une carrière de près de 60 ans, Aretha Franklin demeure une artiste admirée et une référence pour la jeune génération américaine.
Aretha Franklin,
pour que vous m'aimiez encore. Une vie, une œuvre, ce samedi à 15h et sur franceculture.fr. Le concours de recrutement pour la maîtrise de Radio France est ouvert. Vous avez entre 9 et 15 ans, vous aimez chanter? Rejoignez la maîtrise de Radio France. Inscrivez-vous avant le 31 janvier 2020 en téléchargeant le dossier sur maisondelaradio.fr, rubrique recrutement des formations musicales.
Les informations, Margot Delpierre.
Bonjour à tous. Les gardes-côtes espagnols sont venus en aide à environ 200 migrants hier. Parmi les personnes secourues figurent des enfants. Les précisions de notre correspondante à Madrid. La Grèce attire les bonnes grâces des investisseurs. Après la crise de 2008, Athènes réussit à faire financer ses déficits sur les marchés financiers, on vous explique. Les Noëls de l'association Droit au logement se suivent et se ressemblent comme chaque année depuis 10 ans. Ils ont manifesté devant le ministère du Logement. Reportage à suivre. Connaissez-vous Faouda, série israélienne qui entame ce soir sa troisième saison et connaît un succès international? Hier, jour de Noël, environ 200 migrants ont été secourus par les gardes-côtes espagnols. Ils avaient pris la mer à bord d'embarcations de fortune avec l'espoir de traverser la Méditerranée. Ils sont exténués mais vivants, Marie-Hélène Ballestero.
Les sauvetages en mer n'ont cessé ces dernières heures au large des côtes espagnoles. Hommes, femmes et enfants, tous prêts à risquer leur vie pour atteindre le continent européen. En tout, plus de 200 migrants ont été secourus dans plusieurs zones du sud du pays. Dans la province de Murcie, une cinquantaine de personnes d'origine algérienne ont été secourues par les équipes du service de sauvetage en mer espagnol et par la garde civile. Plus de 60 migrants d'Afrique subsaharienne sont arrivés sur l'îlot d'Alboran, à mi-chemin entre le Maroc et la péninsule ibérique, avant d'être emmenés au port espagnol de Motril, en Andalousie. Plus de 70 personnes ont été transportées également à Melilla et Ceuta, les deux enclaves espagnoles au Maroc. Et puis 22 migrants, tous adultes et en provenance du Maghreb, ont été secourus au sud de l'île de Grande Canarie. Malgré ces derniers sauvetages, les arrivées de migrants par la mer en Espagne ont diminué de 55% cette année par rapport à 2018, selon le ministère de l'Intérieur. Mais il y a une exception, les îles Canaries, où elles ont augmenté de 70%.
La correspondance de Marie-Hélène Ballestero à Madrid. Dans son message hier, Urbi et Orbi à la ville et au monde, le pape François a redit son soutien aux migrants. C'est l'une des priorités de son pontificat. Il a déploré, je cite, les murs d'indifférence qui se dressent sur leur chemin alors qu'ils recherchent une vie sûre. Les autorités burkinabées ont annoncé hier avoir subi une deuxième attaque perpétrée dans le nord du Burkina Faso dans la nuit de mardi à mercredi. Une dizaine de soldats ont été tués. Le Burkina a décrété un deuil national de 2 jours après l'attaque d'Arbinda où 35 civils et 7 militaires sont morts. 80 terroristes avaient été neutralisés. Nous y reviendrons dans le journal de 7h d'Olivia Cohen. Au moins 16 personnes sont mortes hier aux Philippines à cause du passage d'un typhon d'après les autorités locales. Il s'agit d'un premier bilan communiqué cette nuit. Elle a été persona non grata pendant presque 10 ans. Aujourd'hui, la Grèce n'a plus de mal à faire financer ses déficits sur les marchés financiers. Elle compte emprunter 4 à 8 milliards d'euros. Vous nous expliquez, Marie Viennot.
Ce qui explique que la Grèce n'effraie plus les investisseurs, c'est d'abord son application rigoureuse des conditions fixées par ses principaux créanciers, c'est-à-dire les pays de la zone euro et le FMI. La Grèce n'est plus officiellement sous assistance financière depuis 18 mois, mais sa politique économique et budgétaire reste contrainte par une feuille de route très précise. Or, le dernier vote du budget grec va au-delà des excédents fixés par ses créanciers. La croissance de son PIB est autour de 2%, comme celle de la zone euro, et le FMI reconnaît les progrès du nouveau pouvoir grec en faveur des réformes. Autant d'éléments qui rassurent les investisseurs privés, fonds d'investissement, banques, assureurs, etc. Ce qui explique aussi que la Grèce redevienne attractive sur les marchés, c'est que, vu son passé tourmenté, lui prêter rapporte bien plus que prêter aux autres pays de la zone euro. Prêter sur 10 ans à la Grèce, c'est espérer des taux d'intérêt de 2 à 3%. Des taux positifs donc. Alors que pour prêter à la France ou l'Allemagne sur 10 ans, les taux sont négatifs et les investisseurs doivent donc au contraire payer pour prêter à ces pays. Cette situation est inédite et anormale, mais elle s'installe car les milliers de milliards déversés par les banques centrales depuis la crise de 2008 cherchent à se placer, si possible, sans risque. Même la Grèce a pu emprunter à des taux négatifs pour des emprunts à 3 mois en octobre dernier. Que des prêteurs soient prêts à perdre de l'argent pour faire crédit à la Grèce, c'était inconcevable auparavant. Et c'est aussi le signe que ça ne tourne pas très rond dans la planète finance en ce moment.
Marie Viennot du service économie de France Culture. Les jours passent et se ressemblent. 22e jour de grève contre la réforme des retraites avec des conséquences toujours dans les transports. Aujourd'hui, un TGV sur deux circule selon la SNCF, un Transilien sur 5 et 4 TER sur 10. 5 lignes du métro parisien sont fermées. La SNCF rappelle que tous les trains ouverts à la réservation jusqu'au 29 décembre inclus sont garantis de circuler. La concertation avec le gouvernement doit reprendre le mardi 7. Avant la présentation du projet de loi en Conseil des ministres le 22 janvier. Faute de transport, les manifestants étaient moins nombreux hier à Paris, selon l'association Droit au Logement. Une 50aine de personnes se sont rassemblées devant le ministère du Logement, comme depuis 10 ans à chaque Noël. L'association assure que plus de 3 millions de logements sont vacants en France et ils pourraient être utilisés pour héberger des SDF ou reloger ceux qui occupent des habitations vétustes. Le reportage de Jeanne Dossé.
À 47 ans, Jonas navigue d'appartement en appartement en région parisienne. En ce moment, cet agent de sécurité est hébergé dans un studio de 30 mètres carrés avec ses 3 enfants.
Mais juste pour 3 mois, 4 mois, il faut trouver ailleurs, comme c'est l'hiver. Dieu merci, il y a une loi qui je peux pas sortir jusqu'à mars. Pour trouver un logement, il faut être vraiment comme un lion.
Judith ne dira pas le contraire. Cette salariée dans l'hôtellerie a obtenu un logement social après 4 ans d'attente. Mais celui-ci est vétuste. Elle a donc demandé à changer d'appartement peu après son installation. Problème, il y a un délai avant de pouvoir déménager selon son bailleur.
Il y a une période d'attente pour la mutation, minimum 2 ans. Et là, ça fait plus de 3 ans. Donc, j'ai dû me réinscrire au DAL pour recommencer la lutte que j'avais déjà faite en espérant que cette fois-ci, j'obtiendrai quand même un logement décent pour mes enfants et moi.
Sous les fenêtres du ministère du Logement, les manifestants ont scandé des slogans à l'intention du président de la République.
Emmanuel Macron, on n'a pas de logement. Dormir chez toi.
Droit au logement demande la réquisition des 3 millions d'habitations vacantes en France. Le porte-parole de l'association, Jean-Baptiste Hérault, distingue 2 autres pistes pour lutter contre le mal-logement.
Il faut construire du logement accessible, d'une part, et il faut agir sur les prix de l'immobilier et les prix du foncier. Sinon, on continuera à s'enfoncer dans la crise et il y aura de plus en plus de logements vacants. Parce qu'évidemment, avec des loyers à 30 euros le mètre carré, qui peut se payer ça?
Selon Droit au logement, il y avait début 2019 en France 4 millions de personnes mal logées ou sans domicile.
Jeanne Dossé. C'est un exemple de série israélienne qui cartonne dans le monde. Fauda, la saison 3, commence ce soir. L'histoire de commandos des services secrets intérieurs israéliens infiltrés en Cisjordanie avec des agents arabophones grimés en palestinien. Voilà pour le résumé. Une série appréciée des Israéliens, des Palestiniens et des autres aussi. Une série qui s'exporte. Elle doit être diffusée en avril prochain sur Netflix. Frédéric Mettezo.
Pour cette 3e saison, Doron et ses coéquipiers pénètrent à Gaza. La recette n'a pas changé, une mission ultra dangereuse, des infiltrés qui risquent de se faire démasquer à tout moment, le héros tourmenté par ses cas de conscience et ses problèmes personnels. Pour Uri Shinar, l'un des producteurs télé les plus connus d'Israël, ami de l'acteur principal et co-scénariste de la série, Fauda est un succès car elle sonne juste.
One of the huge successes. Is not to be objective.
L'une des grandes réussites, ce n'est pas d'être objectif, mais de présenter authentiquement le conflit israélo-palestinien avec les 2 points de vue.
This is very, very hard to do. You will find very few Israelis.
C'est très, très dur à faire. Vous trouverez très peu d'Israéliens impliqués dedans pour vous dire que ce n'est pas représenté de façon authentique. Et si vous parlez à des Arabes palestiniens, vous entendrez la même chose.
Faouda a réhabilité les Israéliens originaires des pays arabes, régulièrement moqués dans le pays. Elle montre aussi des Palestiniens qui vivent, tout simplement. Elle a aussi ses détracteurs. Le journal de gauche Haaretz regrette une vision israélo-centrée où les vrais méchants sont toujours palestiniens et les vrais sauveurs toujours israéliens. Mais Faouda demeure l'une des séries israéliennes les plus connues à l'étranger. Israël qui est le premier importateur de séries aux États-Unis devant les Britanniques.
Frédéric Mettezo, Israël, l'autre pays des séries. C'est une enquête de notre correspondant à lire sur franceculture.fr. La Charente-Maritime est encore placée ce matin en vigilance orange pour des risques d'inondation. Météo France prévoit par ailleurs un temps plutôt gris sur l'ensemble du pays, plus lumineux sur le sud. Attention aux gelées matinales entre 0 et moins 2 degrés dans l'est. Vous n'aurez pas plus de 6 degrés à Lille, 4 à Strasbourg, 11 à Paris, 14 à Bordeaux, 15 degrés à Nice et 16 à Ajaccio. 6h40, les enjeux internationaux, c'est maintenant et c'est avec vous, Antoine Dulster, bonjour.
Bonjour Margot.
Aujourd'hui, vous mettez le cap sur l'Amérique du Sud.
Oui, pour tenter de comprendre les secousses, on pourrait même dire les convulsions, qui ont agité cette région en 2019 pour ce quatrième temps du bilan de l'année internationale que nous dressons toute cette semaine. On parle depuis plusieurs années déjà d'une fin de cycle en Amérique latine, de la fin d'une époque marquée par une croissance économique forte et politiquement par les victoires électorales des partis de gauche. Cette fin d'époque s'est confirmé cette année avec le départ forcé d'Evo Morales en Bolivie. Au Brésil, c'est l'extrême droite de Jair Bolsonaro qui s'est installée au pouvoir en janvier dernier, un peu plus de 2 ans après la destitution de Dilma Rousseff. Les secousses ont aussi marqué cette année le Chili, l'Équateur, l'Argentine et bien sûr le Venezuela. Évidemment, toutes ces crises ont des causes très différentes, très spécifiques, mais elles ont peut-être en commun un certain nombre de facteurs économiques et sociaux. Les économies de la région payent le prix de leur dépendance au marché mondial des matières premières, un marché porté pendant longtemps par la croissance chinoise. Cette période d'abondance est derrière nous, et dans de nombreux pays d'Amérique latine, c'est la vie démocratique qui en subit les conséquences. Trop d'inégalités, pas assez de services publics, une vie trop chère et un rejet unanime des partis politiques en place. Alors les démocraties sud-américaines sont-elles des victimes collatérales du ralentissement de l'économie? C'est la question que nous posons ce matin dans les enjeux internationaux en compagnie d'Olivier Compagnon. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes historien, directeur du CREDA, le centre de recherche sur les Amériques de l'université Paris 3. Alors je le disais, des crises très différentes d'un bout à l'autre du continent, mais des points communs. Comment expliquez-vous, Olivier Compagnon, cette concomitance de mécontentement dans des registres très divers?
Oui, alors évidemment, il faut se garder de tout réductionnisme. Chaque expérience nationale a ses propres spécificités, vous l'avez dit. Mais il y a cette toile de fond commune d'un ralentissement économique, d'une crise économique dans certains cas, dont on peut d'ailleurs marquer le début aux années 2013-2014. Pour aller vite, on a une décennie exceptionnelle de croissance, avec une croissance moyenne régionale de 4% par an entre 2003 et 2013. Et puis un basculement autour de 2013 qui s'approfondit en 2014 et duquel on n'est pas sorti encore, avec une croissance moyenne d'1% depuis 2013, un peu moins d'1% d'ailleurs pour 2019, et parfois des contextes de récession comme on a eu au Brésil ou en Argentine. Donc voilà la donnée fondamentale, et la cause de cette crise, la cause principale de cette crise, c'est effectivement l'effondrement de la demande chinoise, dans une moindre mesure l'effondrement de la demande états-unienne et européenne. Et ça nous montre quoi, en gros? Et c'est ça qui est intéressant. Ça nous montre que les économies latino-américaines demeurent extrêmement dépendantes de leur secteur exportateur.
Alors commençons par examiner précisément le cas du Brésil. Pas de grande crise sociale cette année, mais Jair Bolsonaro est entré en fonction le 1er janvier. L'histoire politique du Brésil a été très mouvementée. Donc ces dernières années, le PT de Lula a gouverné le pays de 2003 à 2016 avec la destitution donc de Dilma Rousseff. On attribue sa destitution à Dilma Rousseff et l'élection de Bolsonaro fin 2018 à une colère contre la situation économique et sociale du Brésil. On évoque souvent le mouvement social de protestation de 2013. Est-ce que c'est vraiment là, effectivement, Olivier Compagnon, que ça a commencé? Vous l'évoquiez il y a un instant.
En tout cas, il y a un cycle de déstabilisation qui commence à ce moment-là, avec une série de grandes manifestations, notamment à São Paulo, liées, et ça c'est très intéressant à rappeler quand même, à l'augmentation décidée par le gouvernement de l'État de São Paulo du prix des transports publics, c'est-à-dire un élément qu'on a pu observer plus récemment au Chili, par exemple.
Cette année. Donc c'est le prix de la vie et le prix des services publics.
Voilà, exactement. Et au fond, ça montre bien l'une des conséquences qu'a ce ralentissement économique de 2013-2014, la moindre capacité redistributrice que vont avoir les gouvernements dits du virage à gauche, et effectivement une série de mesures qui vont très souvent peser sur le niveau de vie des populations, et surtout des populations les plus démunies. Donc évidemment, c'est pas du tout le seul facteur, je dirais, de la crise politique qui va d'abord conduire à la destitution de Dilma Rousseff, puis à l'élection de Bolsonaro, mais c'est un élément qui est absolument clair, et qui montre bien aussi comment des populations, des secteurs de la population, on le voit bien en Bolivie récemment également, qui avaient très largement soutenu, alors au Brésil, le Parti des Travailleurs, en Bolivie, l'expérience Morales, à un moment donné, se désolidarisent, dès lors que, je dirais, ces clientèles politiques, entre guillemets, ne trouvent plus leur compte dans des politiques de redistribution qui s'essoufflent progressivement du fait du contexte économique.
C'est ce que j'allais vous dire, et Olivier Compagnon, c'est qu'il y a cet essoufflement, mais il y a aussi des changements de politique, puisque Dilma Rousseff est élue dans la continuité de Lula, mais elle fait un plan d'austérité qui est très mal vécu par sa population. C'est pas pour ça qu'elle a été mise au pouvoir, Dilma Rousseff.
Oui, alors, il y a effectivement, il n'y a pas une continuité complète entre Dilma Rousseff et Lula. Et néanmoins, c'est je crois que le facteur international d'effondrement du prix des matières premières est plus important que, je dirais, la rupture de ligne économique au sein du gouvernement du parti des travailleurs. Après, vous avez raison aussi de noter le fait que, d'un côté, on a cette toile de fond générale d'effondrement du prix des matières premières et de baisse de la demande chinoise, mais d'autre part aussi des choix politiques, parfois, qui expliquent le contexte de crise économique. Hein. On ne peut pas uniquement avoir une thèse qui serait finalement une thèse de déresponsabilisation, entre guillemets, des gouvernements latino-américains. On le voit très bien dans le cas vénézuélien. L'effondrement de l'économie vénézuélienne, c'est sans doute, d'une part, la chute du prix du pétrole, mais c'est aussi, d'autre part, bien avant le tournant de 2013-2014, un manque criant d'investissement productif dans une économie pétrolière qui en demande justement très régulièrement, et qui fait que voilà, la capacité extractive du Venezuela s'est aussi effondrée. Et aujourd'hui, vous avez des économistes vénézuéliens qui disent que quand bien même on aurait une transition là dans les mois qui viennent, il faudrait 5 ou 6 ans pour remettre l'économie vénézuélienne en état de marche à son niveau du début des années 2010, tant justement ces investissements productifs n'ont pas été faits. Donc on a après une multiplicité de facteurs sur lesquels il faut jouer de manière permanente.
Alors rappelons juste sur le cas du Venezuela que le pays est toujours en crise politique, puisque effectivement le président Maduro tient son pays, mais avec une contestation importante portée par la droite, avec qui s'est traduite cette année par une tentative de soulèvement militaire au mois d'avril. Vous parliez du Brésil et vous faites le parallèle avec le Venezuela. Dans ces deux pays, évidemment, dans des contextes très différents, avec des situations très très différentes, est-ce que les élites au pouvoir ne sont pas quand même conscientes que certains choix doivent être faits, que la diversification de ces économies serait une nécessité vitale pour eux?
Alors, les cas sont différents. Cette diversification des économies par rapport à un modèle qui est presque un modèle historique, hein, de modèle rentier finalement. J'exporte mes matières premières non transformées et j'importe des produits manufacturés des pays industrialisés. C'est le modèle du 19e siècle avec la grande dépendance que l'Amérique du Sud avait vis-à-vis de l'Angleterre, du 20e siècle vis-à-vis des États-Unis, du début du 21e siècle vis-à-vis de la Chine. Évidemment, ce modèle, il a été remis en cause même dans l'histoire. Dans les années 40-60, pendant la période dite populiste, entre guillemets, dans le Brésil de Vargas, dans l'Argentine de Perón, dans le Mexique de Cárdenas, on a effectivement tenté des politiques de diversification économique, de substitution des importations, autrement dit d'industrialisation. Mais ces politiques d'abord n'ont été que localisées dans un certain nombre de pays, et d'autre part n'ont pas rompu complètement cette logique rentière, au point d'ailleurs que dans les années 2000, au moment où le prix des matières premières explose, on assiste plutôt à des logiques de reprimarisation des économies, c'est-à-dire de de désindustrialisation
pour maximiser cette manne économique.
Alors évidemment, dans le cas du Venezuela, par exemple, beaucoup attendaient, notamment dans la deuxième moitié des années 2000, au moment où Chavez avait consolidé son pouvoir politique et où le pétrole était extrêmement élevé, des politiques qui auraient permis, par exemple, au Venezuela de cesser d'importer 75% de son essence. C'est quand même l'un des grands paradoxes vénézuéliens où on exporte de l'essence vers les raffineries texanes, du brut vers les raffineries texanes, et on importe 75% du pétrole. Donc pourquoi ne pas effectivement industrialiser, utiliser la manne pétrolière pour des transferts de technologie et développer des raffineries. Et là, on est vraiment dans une histoire de choix stratégiques qui ne sont pas faits.
Alors parlons d'un pays qui va assez bien économiquement, qui est le Chili. Olivier Compagnon, c'est en tout cas un pays qui est souvent désigné comme étant le bon élève, qui était aussi le théâtre des expérimentations des Chicago Boys, de Milton Friedman, à l'époque de Pinochet évidemment, donc un pays sans beaucoup de services publics, pour dire les choses. Un pays qui est pourtant en crise aujourd'hui, une crise déclenchée de la même manière que au Brésil en 2013, par une augmentation du prix des transports. Et là, ce qui est en cause, on a le sentiment que ce n'est pas simplement une question économique, c'est une question peut-être de mobilité sociale. Qu'est-ce qui est en cause fondamentalement dans la crise du Chili depuis quelques mois ?
Alors, votre amorce est intéressante. Le Chili est un pays qui allait bien. Oui, effectivement, vu d'un certain point de vue, la mutation néolibérale qui a commencé sous Pinochet a parfaitement fonctionné, puisque le Chili est un pays
qui avait des bons résultats.
Voilà, au niveau macroéconomique.
Enfin, c'est-à-dire forcément qu'il va tout à fait bien entendu, de tous les points de vue.
Bien entendu.
Dans le sens de ma question.
J'ai bien compris votre question. Et évidemment, le prix très fort de cette mutation néolibérale qui a maintenant une cinquantaine d'années a été le creusement très fort des inégalités dans un pays où justement les inégalités étaient les moins élevées d'Amérique latine à la fin des années 1960 ou au début des années 1970. Donc dès lors effectivement que le contexte économique global durcit les conditions quotidiennes pour les secteurs les plus défavorisés, on voit exploser dans un contexte donc très très inégalitaire ce mouvement de contestation.
26 morts et près de 2000 blessés.
Absolument, une répression très brutale du gouvernement Piñera, avec un élément qui est très intéressant dans le cas chilien, au-delà, je dirais, de ces inégalités, qui ne sont pas une spécificité chilienne, hein. Il faut toujours rappeler que l'Amérique latine est le continent le plus inégalitaire du monde, c'est le fait, par exemple, que les populations qui sont rentrées dans un modèle consumériste très 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 achevé, je dirais, ont aujourd'hui des niveaux d'endettement qui sont absolument incroyables pour, je dirais, pas seulement une consommation de produits superflus, mais surtout pour payer l'électricité, pour payer l'eau, pour payer le gaz, pour payer l'éducation, pour payer la santé, etc., etc. C'est-à-dire que dans un contexte économique défavorable comme celui d'aujourd'hui, à un moment donné, on a cette disparition d'un état social qui a un coût extrêmement fort sur le niveau de vie quotidien des secteurs notamment les plus défavorisés, mais pas seulement, parce que ce qui est intéressant au Chili aussi, c'est que c'est aussi un mouvement très largement ancré parmi les classes moyennes.
Alors, même contexte de crise économique, mais cette fois-ci avec des résultats politiques tout à fait différents. Je parle de l'Argentine, avec l'élection du ticket Alberto Fernandez-Cristina Kirchner le 27 octobre dernier, et donc un président et une vice-présidente qui sont en poste depuis le 10 décembre. Là, on a une crise économique dont on sent bien que les Argentins ont les plus grandes difficultés à se sortir depuis de nombreuses années. Il y a eu la tentative Macri, donc qui n'est resté au pouvoir que pendant un seul mandat. Et donc là, c'est la gauche péroniste qui revient au pouvoir. Donc, même cause, conséquences différentes en Argentine ?
Alors, même cause, effectivement, dans une certaine mesure, le tournant de 2013-2014 et la chute du prix des matières premières expliquent en partie la défaite de Cristina Kirchner en 2015, même s'il y avait aussi, je dirais, une usure du pouvoir kirchneriste, hein, qui était là depuis plus d'une dizaine d'années. Ce qui est intéressant dans l'expérience Macri, c'est que c'est l'archétype de la relance néolibérale, appuyée par le plus grand prêt concédé dans l'histoire par le Fonds monétaire international, et un échec absolument patent. C'est-à-dire que ça a été vraiment une politique très dure, dans ses conséquences sociales notamment, menée par Macri, avec justement une augmentation du prix d'un certain nombre de prestations élémentaires, comme l'électricité, comme l'eau, qui a littéralement étranglé les secteurs les plus fragiles de la société argentine, dans l'espoir de la part du gouvernement Macri que cette normalisation économique, quand je dis normalisation, j'utilise là, je dirais, la perspective et les termes de l'orthodoxie néolibérale, attire de nouveau les investissements étrangers et donc relance l'emploi, l'économie. Or, ces investissements étrangers ne sont pas venus, ou plutôt sont venus de manière très... On a parlé d'investissements hirondelles, de manière très, très temporaire, et n'ont pas permis une relance économique. Donc c'est assez intéressant de voir effectivement comment l'échec de Macri aussi, on peut l'interpréter à l'aune de cette crise économique, et on y voit là une matrice forte quand même du changement politique en Amérique latine actuellement.
Alors, on t'a mis ce panorama, cette revue de ce qui s'est passé cette année 2019 en Amérique latine avec vous, Olivier Compagnon, avec évidemment des considérations sur la situation de la Bolivie. Et là, est-ce que ce ne sera pas un peu le contre-exemple de ce qui dans le sens contraire de ce qui se passe partout ailleurs sur le continent, c'est-à-dire un président avec de très bons résultats économiques, qui a diminué depuis son arrivée au pouvoir en 2006 les inégalités dans le pays, et qui pourtant se fait chasser du pouvoir, alors évidemment elle a avec une dimension politique très forte.
Oui, alors effectivement, la Bolivie échappe en partie à cela, puisque la croissance économique bolivienne était encore excellente en 2019 et en 2018. D'autres pays d'ailleurs échappent à ça, une partie de l'Amérique centrale, le Mexique, dans une certaine mesure. Alors ce qui est intéressant dans le cas bolivien, alors... On pourrait reprendre les thèses évoquées par Evo Morales hier dans une interview qu'il a donnée, où il explique qu'en fait c'est un coup d'État lié au lithium et que c'est bien sa politique de nationalisation des ressources en matières premières qui a créé, disons, une réaction à la fois des élites traditionnelles boliviennes et de la communauté internationale pour récupérer les bénéfices de ces matières premières fondamentales.
Vous n'y croyez pas, cette thèse?
Disons que c'est traditionnellement une thèse du complot qui, à mon avis, me semble un petit peu réductionniste. Non, ce qui est intéressant dans le cas de Morales, je crois, c'est comment sa chute, dans une certaine mesure, là, évidemment, elle atteste la force de l'opposition, l'émergence de nouveaux acteurs comme les acteurs évangélistes, etc. Il y aurait plein d'éléments. Ce que je trouve intéressant, c'est la manière dont un certain nombre de secteurs sociaux qui avaient été les soutiens les plus forts du mouvement se sont progressivement désolidarisés. Et là, on peut parler d'une partie des mondes indiens qui, à un moment donné, protestent contre les conséquences de l'extractivisme qui a marqué profondément l'expérience Morales, et notamment de ses conséquences environnementales, etc., etc. C'est une chose que là, on n'a pas évoquée du tout, mais cette reprimarisation des économies s'est faite très souvent à l'encontre d'un certain nombre des injonctions internationales liées à la lutte contre le réchauffement climatique, liées au développement durable. Et ça, c'est aussi un des traits communs qui caractérise l'ensemble de la région, ou du moins l'ensemble de la région sud-américaine au cours de ces dernières années.
Écoutez, merci beaucoup pour ce panorama très large des questions économiques et politiques posées en Amérique latine. Olivier Compagnon, je rappelle que vous êtes historien et directeur du CREDA, le Centre de recherche sur les Amériques de l'Université Paris 3.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Des histoires du réel, sur France Culture, chaque week-end, une histoire particulière. Christine Bernard.
Il porte un imperméable élimé, fume le cigare, roule en Peugeot 403, possède un chien improbable et une femme que l'on ne voit jamais. Et sa phrase signature, c'est « Mais juste une dernière chose ». Vous avez deviné ? Le lieutenant Colombo, policier de la brigade criminelle de Los Angeles, ce week-end, c'est la star.
Les 50 ans d'un anti-héros de génie, Colombo, récit documentaire en deux parties, ce samedi et ce dimanche à 13h30 et sur franceculture.fr. Quatre enfants, un mari, un lapin, un boulot, travailleuse et mère de famille au bord de la crise de nerfs, la vie trépidante de Brigitte Tornade, en podcast original. Noël approche et c'est l'effervescence chez les Tornades.
Quand même, c'est du chantage ça.
Comment ça du chantage?
Bah, de dire que tu vas téléphoner au Père Noël si Octave mange pas, c'est du chantage.
Guirlandes, sapins et dindes au marron, en tristerie festive, découvert à la banque, prise de bec et angoisse existentielle, tout y est. La vie trépidante de Brigitte Tornade, en podcast original sur franceculture.fr et toutes les plateformes dédiées.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez France Culture, il est 6h57, l'heure de retrouver Hervé Gardette. Bonjour Hervé.
Bonjour Antoine Ulster.
Dans votre billet d'humeur aujourd'hui, vous revenez sur un fait divers qui a marqué l'opinion publique, l'affaire Grégory.
Et n'ayant de goût particulier, ni pour les séries, ni pour les faits divers, je m'étais d'abord tenu à l'écart de Grégory, le documentaire en 5 épisodes de Gilles Marchand, diffusé sur Netflix. Une mise à distance renforcée par le sentiment d'en avoir déjà trop entendu sur cette désastreuse affaire, celle de l'assassinat jamais élucidé d'un petit garçon de 4 ans, c'était il y a 35 ans. Nul besoin d'avoir approfondi le sujet pour savoir à quel point cela avait été une débâcle médiatique et judiciaire. Les Vosges, la Vologne, le Corbeau, Thibault, le juge Lambert, Christine et Jean-Marie Villemain, Bernard Laroche, Muriel Boll, jusqu'à Marguerite Duras qui s'en était mêlée. Tous ces noms restaient familiers, l'actualité n'ayant jamais cessé de les ressasser. Et pourtant, quel choc! La force de ce documentaire repose d'abord sur la profusion des images d'archives, certaines diffusées au moment des faits, d'autres restées à l'état de rush. Elles nous replongent dans le traumatisme de l'époque et dans sa violence inouïe, comme cette scène lors des obsèques de la victime où un jeune garçon tente de chasser les journalistes qui ont investi le cimetière. Des journalistes vautours, une justice défaillante, des enquêteurs qui rejouent la guerre des polices, les institutions de la démocratie en prennent pour leur grade. Tout comme cet autre socle que représente la famille, on est loin de l'esprit de Noël. La brutalité domine dans les relations entre frères, enfants et cousins. Et que dire du voisinage qui alterne entre mur du silence et poison de la rumeur? Le plus frappant, c'est de constater que 30 ans après, la plupart des protagonistes, ceux en tout cas qui ont accepté de témoigner, le reporter de Paris Match, le commissaire de la PJ, la femme du correspondant de RTL, l'avocat des Laroche, tout cela semble n'avoir pas vécu depuis, comme s'ils étaient restés figés en 1984. Et je me demandais, en regardant ce film, à mon sens le film de l'année, si la société française réagirait différemment aujourd'hui, s'il ne fallait pas y voir un portrait très contemporain de notre monde, déformé par l'agressivité des réseaux sociaux. J'ai bien peur que poser la question soit une manière d'y répondre.